Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. La science, toute discipline scientifique confondue, n'est jamais figée. Elle évolue sans cesse, elle avance, elle progresse, développant de nouvelles interrogations, de nouvelles incertitudes, voire même de nouvelles inquiétudes. La science est en marche et nous ne sommes pas arrivés à la fin de nos connaissances, bien au contraire. C'est sur ce thème que cette émission Éclairage vous propose de réfléchir en compagnie de Monsieur Édouard Brézin, président de l'Académie des sciences, lui-même physicien. Monsieur Brézin, bonjour.
Bonjour, madame.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Je disais que vous êtes physicien et non des moindres. Je voudrais rappeler brièvement que vous êtes ancien élève de Polytechnique, docteur en sciences de l'Université de Paris, que vous avez assuré un enseignement dans plusieurs établissements prestigieux en France, mais aussi dans des universités étrangères. On citera Princeton, Harvard, Oxford, Amsterdam, que vous avez été plus exactement président du conseil d'administration du CNRS entre 92 et 2000 et que vous êtes actuellement président de la Société française de physique.
Je n'en suis président sortant, j'ai été remplacé par un excellent collègue.
En tout cas, vous êtes le président de l'Académie des sciences et c'est à ce titre, en tant que président pour l'année 2005 et 2006, que vous avez prononcé le discours d'ouverture de la séance solennelle de rentrée de cette Académie le mardi 15 novembre 2005. Ce discours et cette séance, je le précise pour nos auditeurs, Canal Académie les a bien entendu rediffusés. Nos auditeurs peuvent le télécharger en consultant notre médiathèque à la rubrique « En séance ». Dans ce discours d'ouverture, Monsieur Brézin, vous avez évoqué une dizaine de questions et non encore résolues aujourd'hui par la science et qui font toujours l'objet de recherches dans les laboratoires. Vous en avez choisi 10, mais vous laissez entendre que vous auriez pu en choisir beaucoup d'autres. Si vous le voulez bien, je vous propose que nous reprenions chacune de ces questions et que vous apportiez votre éclairage sur ces différentes disciplines et que vous nous montriez l'enjeu de ces questions. La première question que vous avez évoquée dans votre discours, elle est d'ordre un peu général. Est-ce que la nature de ce que nous appelons la conscience, est-ce que cette question qui était jusqu'à présent philosophique va devenir une question scientifique ?
Oui, c'est une question évidemment ancienne. Beaucoup de philosophes ont essayé de réfléchir sur cette notion de conscience. Alors attention, il ne s'agit pas ici de conscience morale, mais il s'agit de ce que les Anglais appellent « awareness », consciousness, c'est-à-dire le fait que, bien que nous soyons composés de multiples parties, nous nous vivons, nous nous sentons comme un être, un pensant, une identité. Et qu'est-ce qui, à travers notre paquet de neurones, puisque nous avons ces quelques milliards de neurones qui sont connectés, voilà notre cerveau, qu'est-ce qui dans ça fait que nous nous sentons comme un individu, comme une entité, et non pas simplement une multitude de corps distincts? Alors, pendant longtemps, ceci a paru comme étant réellement hors du champ de la science. Or, ce qui m'a frappé, c'est que aujourd'hui, de très grands biologistes se sont posés ces questions. Par exemple, le grand Crick qui vient de mourir, qui avait donc été l'un des découvreurs de la double hélice, a beaucoup travaillé sur ces questions. L'université d'Oxford est en train d'ouvrir un grand institut sur ce thème. Nous avons des biologistes en France qui réfléchissent beaucoup. Chacun, enfin beaucoup connaissent ce livre de très important de Jean-Pierre Changeux qui s'appelle L'homme neuronal. L'homme est une machine, l'homme est composé de neurones, mais qu'est-ce qui à travers tous ces neurones fait que nous nous sentons comme un individu unique et que nous nous pensons comme individu? Est-ce qu'on peut définir conscience de manière opérationnelle? Est-ce qu'on peut poser des questions et savoir si tel animal a ce même sentiment et tel autre ne l'aurait pas? Est-ce qu'on a des moyens expérimentaux d'y arriver ou pas? Voilà une question qui n'est évidemment pas de mon domaine, mais ça m'a frappé en lisant beaucoup de ces grands spécialistes des neurosciences de voir que actuellement ils essayent de définir ça de manière opérationnelle.
On comprend bien que c'est en effet un enjeu important pour chacun d'entre nous, ne serait-ce que cela. La deuxième question que vous évoquez, c'est une question qui a trait à l'astrophysique.
Oui.
De quoi est fait l'univers?
Oui, alors ça, c'est une question, elle mérite, si vous voulez, qu'on s'y arrête un tout petit peu, parce que elle a des racines profondes qui remontent, en fait, à Albert Einstein. Au moment de la nouvelle théorie de la gravitation, qui est due à Einstein, qui s'appelle la relativité générale, je ne vais pas la décrire, Einstein cherche à décrire le monde des étoiles, le monde de l'univers qui nous entoure. Et il a le sentiment, qu'ont sans doute tous ses contemporains, que le monde est éternel, il a toujours été là, il sera toujours là. Et donc, il écrit des équations de la gravitation et il cherche une solution à ces équations qui ne changent pas avec le temps, statique comme on dit. Il s'aperçoit qu'il n'y a pas de telle solution, il est très embêté. Il modifie sa théorie de façon à la forcer à avoir une solution. Et quelques années plus tard, en 1921, un astrophysicien américain qui s'appelait Hubble, à qui on a donné le nom de ce télescope embarqué actuel, découvre que le monde n'est pas du tout statique, qu'il y a d'autres galaxies que notre Voie lactée, et que ces galaxies s'éloignent de nous, que l'univers est en expansion, et donc il n'y avait pas de raison pour Einstein de chercher des solutions statiques. Alors Einstein se frappe le front, dit « j'ai fait une erreur, j'ai fait la plus grande erreur de ma vie ». Eh bien, c'était pas une erreur, car les astrophysiciens qui observent le monde nous disent maintenant depuis 2 ou 3 ans, avec une assez grande cohérence dans leurs différents moyens d'observation, que cette expansion s'accélère. Et cette expansion ne peut s'accélérer que parce qu'il y a une force qui étire l'univers, alors que la gravitation tendrait à la faire se rapprocher et à se concentrer. Donc, il existe énergie noire, comme ils disent, une énergie du vide, dont la physique, pour l'instant, ignore le contenu. C'est un des grands problèmes. La physique quantique pourrait être une réponse, mais elle se trompe, pour l'instant, d'ordre de grandeur considérable. Donc, il y a une crise de la, je dirais, la physique théorique, de l'astrophysique importante pour comprendre ce qu'observent, ce que nous disent les astrophysiciens.
Alors, je cite ce que vous en dites, vous, dans votre discours, Édouard Brézin. « La question est plus aiguë que jamais depuis que les astrophysiciens nous affirment que leurs instruments ne détectent que 3% de son contenu énergétique, matière noire, et pour 70% énergie noire, c'est-à-dire énergie du vide, du rien. » domine sans que nous en comprenions la nature et les raisons.
Voilà.
Là, c'est vraiment un champ fascinant.
Champ fascinant sur lequel beaucoup de physiciens et d'astrophysiciens sont très activement impliqués aujourd'hui.
Alors, troisième question que vous avez posée lors de votre discours, Monsieur Brézin, c'est une question de biologie. Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'oocyte qui permet de reprogrammer le noyau cellulaire? C'est-à-dire, au fond, c'est tous les problèmes de la cellule, du noyau. Enfin, je ne sais pas si on peut aller encore plus loin dans le...
C'est le grand problème des cellules souches et des cellules souches embryonnaires. Vous savez, ces cellules qui garde, comme on dit, une totipotence, c'est-à-dire que nous sommes tous partis d'une cellule initiale et qu'à la suite d'un processus de différenciation, cette cellule initiale donne lieu à toute notre foie, notre cerveau, notre rein, etc. Nous avons donc au départ des cellules embryonnaires totipotentes et on peut utiliser ce que les biologistes appellent le transfert nucléaire somatique, c'est-à-dire transférer le noyau d'un être dans un autre ovocyte de façon à obtenir ce qu'on appelle, terme ordinaire, le clonage. Donc, l'arrivée de Dolly a été quand même un bouleversement dans le champ du vivant.
Et après Dolly, les biologistes,
les biologistes depuis Dolly ont su faire beaucoup de choses. Et depuis cette année, une équipe d'un biologiste coréen extrêmement célèbre prétend avoir su reprogrammer des cellules souches embryonnaires humaines. Alors, il y a immédiatement un certain nombre de problèmes éthiques qui se dressent derrière, et dans le cas coréen en particulier. Le premier, c'est que tous les scientifiques sont évidemment opposés à un clonage reproductif. Personne ne veut de l'humain. Néanmoins, les possibilités thérapeutiques existent, et donc
pour traiter des maladies
génétiquement incurables, on peut espérer modifier. Donc il y a des espoirs thérapeutiques importants. Il ne faut pas qu'il y ait de déviation éthique. Depuis le 15 novembre, nous sommes aujourd'hui le 30. Vous voyez, en moins de 15 jours, il s'est passé des choses, et on a découvert que ce Coréen célèbre, dont tout le monde pensait qu'il aurait le prix Nobel immédiatement, en réalité, pour obtenir ces cellules, ces ovules dont il avait besoin, les a peut-être obtenues dans des conditions discutables, en payant des dames plutôt que avec des volontaires spontanés. Enfin, la question est posée, il faut des garde-fous éthiques extrêmement stricts. Néanmoins, je crois quand même que les possibilités thérapeutiques sont très grandes. La France actuellement vit sous un régime d'interdiction fabrication de cellules, de nouvelles lignées de cellules souches embryonnaires. En revanche, nos biologistes ont le droit d'utiliser des embryons congelés pour y faire des transferts. Ceux qui sont des, en quelque sorte, résidus, si j'en peux employer ce mauvais mot, des fécondations in vitro, puisqu'il y a toujours des embryons surnuméraires. Ils ont le droit de les utiliser. Ils n'ont le droit de transférer que des lignées existantes qu'on a pu faire venir de pays où c'est autorisé, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne.
Et là, on voit effectivement que toute avancée scientifique porte en elle à la fois son progrès et son interrogation éthique, bien sûr.
C'est vrai.
Et c'est vrai pour tout.
C'est vrai de la physique nucléaire, c'est vrai de...
Et d'une certaine manière, tant mieux, car ça oblige l'être humain à se reposer toutes les questions fondamentales sur la valeur de la vie humaine, je suppose que
c'est un domaine dans lequel il faut qu'il y ait un régime strict dans lequel... c'est pas un hasard si nous avons eu depuis longtemps un comité d'éthique des sciences de la vie en France qui a joué un rôle extrêmement important,
et je
l'approuve.
Alors je vois, Monsieur Brézin, que vous êtes aussi à l'aise dans la biologie que dans votre propre discipline, mais maintenant vous avez abordé dans votre quatrième question de ce discours d'inauguration ou d'ouverture de la séance solennelle de l'Académie des sciences, une quatrième question de physique. Alors, est-ce que les lois de la physique peuvent être unifiées, les constantes de la nature qui les caractérise, vitesse de la lumière, constante de Newton, de Planck, etc., sont-elles le fait du hasard ou le résultat d'un principe qui nous échappe ? Alors, quelle est la réponse du physicien ?
Oui, alors...
Justement, il n'y a pas de réponse. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de réponse.
Non. Ce sont des questions qu'on pouvait se poser depuis toujours, mais qui sont posées aujourd'hui de manière précise et non pas arbitraire, en quelque sorte. On peut toujours rêver. Est-ce que le monde est le résultat du hasard ou de la nécessité, pour reprendre le mot de Monod, bien sûr ? Il se pose de manière précise pour la raison suivante. Les physiciens savent que tout est dû à un tout petit nombre de forces d'interaction. Il y a des interactions dues à la gravitation, d'autres qui sont dues aux forces nucléaires et d'autres qui sont dues aux forces électromagnétiques. Tout est là. Est-ce que ces forces sont toutes des aspects particuliers d'une loi unique ? Rêve que poursuivait Einstein, rêve qui en fait, pour une très grande partie, s'est révélée exacte au cours du dernier quart du XXe siècle. Les physiciens ont trouvé ce qu'on appelle le modèle standard des interactions électro-faibles et des interactions fortes qui prennent en compte toutes les interactions autres que la gravitation. Donc, la question de l'unification avec la gravitation est posée. Il existe des pistes à l'heure actuelle extrêmement complexe et abstraite qui s'appelle la théorie des supercordes. Et initialement, je vais pas rentrer dans la description, mais initialement, les physiciens qui ont proposé ce modèle avaient le sentiment qu'il n'y aurait, dans ces conditions, on aurait tout unifié et il n'y aurait qu'un seul monde possible. C'est-à-dire qu'on saurait, dans ce monde-là, calculer toutes ces constantes de la nature qui, chez nous, ont une valeur qu'on observe expérimentalement et qui nous servent à décrire le monde, mais qui sont des paramètres que nous injectons dans la théorie. Ils avaient le sentiment, au départ, qu'on pourrait tout calculer. On ne savait pas le faire, mais qu'on pourrait peut-être un jour y arriver. Or, progressivement, le temps s'écoulant, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une solution possible, mais il y a des myriades de solutions possibles. À partir de ce moment-là, se pose une question qui, pour l'instant, est de nature philosophique, mais les physiciens vont avancer, j'en suis certain. Est-ce qu'il y avait des myriades de solutions possibles ? Notre univers est l'un d'entre eux. Accidentellement, encore une fois, ou bien est-ce qu'il y a un principe qui nous échappe et qui nous fait comprendre, qui nous permettrait de comprendre pourquoi parmi toutes ces solutions, il n'y en a qu'une seule qui s'est réalisée, qui est la nôtre. Voilà la question. Alors, certains évoquent un principe anthropique, comme on dit, anthropique à NTH, c'est-à-dire lié à l'homme. Si le monde n'était pas tel qu'il est, nous ne serions pas là. C'est un tout petit peu tautologique et je n'aime pas du tout ce principe anthropique. D'autres préfèrent penser que, en réalité, il existe une multitude d'univers, il y a le nôtre, et puis il y en a d'autres qui sont pas du tout comme le nôtre, où les constantes de la nature sont très différentes. Nous n'avons aucune communication avec ces autres univers, mais ils peuvent parfaitement exister. Et il y a une sorte de paysage d'univers, et nous vivons dans
un multivers dans lequel nous...
Donc la question est aujourd'hui posée, mais elle est réellement posée, et pas de manière philosophique, mais par des gens qui étudient,
les lois
qui font des calculs et qui étudient les lois de la physique. Voilà.
Dans cette émission Éclairage, j'ai le plaisir de recevoir M. Édouard Brézien, président de l'Académie des sciences. Nous allons marquer une courte pause.
L'histoire des hommes, l'histoire des sociétés, l'histoire des mentalités, l'histoire des lieux, l'histoire des événements. C'est un jour dans l'histoire, en direct ou en médiathèque, sur Canal Académie.
Dans cette émission Éclairage, donc, nous apprenons beaucoup de choses grâce à Édouard Brézien, président de l'Académie des sciences. Nous nous interrogeons en reprenant les 10 questions qu'il a posées dans son discours d'ouverture de la séance de l'Académie des sciences. Maintenant, une question de géophysique. Alors, je la résume, je la reprends de votre discours. Quelles sont les causes des renversements du champ magnétique terrestre ?
La raison pour laquelle la Terre a un champ magnétique n'est pas extrêmement claire. Bien sûr, il y a la Terre a un cœur magnétique d'un métal, un métal en fusion, et donc on peut imaginer que ce métal en mouvement peut créer, puisqu'il y a des particules chargées dans les métaux, peuvent créer un champ magnétique. Mais c'est quand même une question importante. Je reviens encore à Einstein qui considérait que l'origine du champ magnétique terrestre était l'une des grandes questions ouverte des sciences. Donc,
est-ce qu'on a progressé alors ?
Alors, on a progressé d'abord au plan de ce qu'on appelle la dynamo terrestre, cette dynamo qui peut créer un champ magnétique. Il y a différents modèles de dynamo terrestre. Mais ce qu'il y a de caractéristique, c'est que le pôle Nord que nous connaissons tous, qui est le pôle Nord magnétique, qui est proche du pôle Nord géographique de la Terre, n'a pas toujours été comme cela. Il y a eu des moments où le pôle Nord était complètement ailleurs, voire même
inversé, on en parle,
et
oui.
Même très loin. Donc, ce champ peut se renverser et les raisons de cette instabilité du champ que nous ne voyons pas à l'échelle de nos vies, mais qui à l'échelle de l'histoire de la Terre se voit très bien, ces raisons ne sont pas connues. Alors cette fois-ci, qu'est-ce qui conduit ce comportement chaotique, comme disent les caprices de la Terre? On espère y arriver à en avoir une vision plus quantitative. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil d'observation extrêmement précieux d'une discipline nouvelle qui s'appelle le géomagnétisme, dans laquelle nos géologues, nos géophysiciens, par exemple à l'Académie des sciences, quelqu'un comme Vincent Courtillot, observe le magnétisme piégé dans l'histoire de la Terre ancienne et en observant la direction des particules magnétiques au moment où le piégeage s'est opéré, peuvent en déduire une méthode de datation et une histoire du champ magnétique terrestre, à la fois une histoire de la Terre et aussi une méthode de datation, c'est extrêmement précise et extrêmement précieuse. Donc, c'est un outil considérable pour notre Terre, pour sa compréhension.
Donc, la géophysique, encore un vaste domaine qui à la fois nous fait rêver et sur lequel on est en marche. Une autre discipline, M. Brézien, que vous évoquez aussi, c'est la chimie. Alors, vous posez cette question, pourrions-nous prédire comment une protéine va se replier simplement en connaissant sa structure ? Parmi les myriades de possibilités ouvertes de repliement, ces protéines font leur choix in vivo en quelques microsecondes, alors qu'à l'heure actuelle, cette détermination à partir de la séquence chimique prendrait des dizaines d'années de calcul.
Il y a toute une discipline qu'on appelle la bioinformatique aujourd'hui, qui mélange donc des biologistes, des informaticiens, des physiciens.
Donc vous c'est pas savez de la chimie, que... alors j'ai dit que c'était de la
c'est
chimie.
C'est de la biochimie. C'est de la biochimie. Actuellement, comme vous le savez, on peut séquencer, étudier la structure des molécules, de ces molécules du vivant. Alors les molécules du vivant, il y a l'ADN, il y a l'ARN, et puis l'ADN et l'ARN servent à fabriquer ces protéines qui servent donc au fonctionnement de la cellule, qui sont toutes les pièces qui nous font marcher. Ces protéines sont des longues molécules qui sont composées de milliers d'atomes, voire de dizaines de milliers d'atomes, et au lieu d'avoir une structure étendue, elles ont une structure complètement repliée, et cette structure secondaire dans laquelle la protéine est repliée est essentielle pour comprendre son fonctionnement, parce que suivant dans la façon dont elle va être repliée, elle va montrer certains motifs, en cacher certains d'autres, ça va conditionner son fonctionnement. Et donc, est-ce qu'on pourrait arriver, connaissant la séquence linéaire en quelque sorte de ces très longues chaînes, à comprendre ? Imaginez que nous sachions synthétiser une très longue chaîne, ce que maintenant les gens savent faire, c'est-à-dire on ajoute maillon après maillon, on fabrique cette molécule.
On y arrive, oui.
Quelle va être sa structure réellement dans l'espace ? Comment est-ce qu'elle va se replier ? On a des interactions entre ces différents atomes qui constituent les molécules. Comment remonter de ces interactions à sa forme dans l'espace ? Eh bien, actuellement, il y a des calculs qu'on fait à partir de ça. Ils prennent un temps de calcul gigantesque, car il y a des milliers de molécules qui interagissent les unes avec les autres. Dans la vie, eh bien, in vivo, comme je vous le disais, les molécules s'en sortent très vite, en quelques microsecondes. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à avoir une bonne connaissance qui permettrait de prédire ? Je crois que c'est très important, parce que le jour où on comprendra comment, à partir de notre séquence biologique, celle de nos gènes, quelles sont les protéines qui sont commandées par nos gènes, car en définitive, nos gènes ne servent qu'à fabriquer des protéines lorsqu'ils marchent, alors je crois qu'on aura fait un grand progrès sur le plan de la compréhension du vivant et à terme des maladies, bien sûr,
fond,
et des réparations.
C'est le grand domaine qui s'ouvre pour le 21e siècle, c'est la compréhension
Absolument.
Du vivant, mais aussi la compréhension effectivement des phénomènes terrestres, de la naissance de la vie, de l'univers, etc. Mais les deux sont liés, finalement.
Oui, tout ça est extrêmement ouvert, mais la biologie, c'est vrai, dans ces méthodes actuelles dans lesquelles on a pu arriver à remonter complètement aux séquences atome par atome, s'ouvre un champ extraordinaire pour la biologie et qui est encore loin d'être compris et exploré.
Autre question posée par Edouard Brézin. Alors là, vous faites appel à un acronyme anglais. Qui était LUCA, L-U-C-A ?
Alors, LUCA, donc, c'est en anglais, Last Universal Common Ancestor, c'est l'arbre de l'évolution. Les spécialistes de la génétique de l'évolution arrivent actuellement à dater les moments où il y a dans cet arbre où les branches se produisent du fait de populations isolées les unes des autres, dans les unes dans lesquelles une mutation se produit et pas dans les autres. On voit cet arbre de l'évolution. Nous ne descendons pas du singe, mais visiblement, l'homme et le singe descendent d'un rameau commun dans lequel il y a une division. Et donc, lorsqu'on regarde ces branches et qu'on se rapproche le plus en plus du tronc, on s'aperçoit, à l'aide de ces méthodes qui regardent les séquences génétiques qui conditionnent ces organismes, on s'aperçoit qu'il est vraisemblable que l'hypothèse la plus simple semble pour l'instant ne pas avoir de contre-indication en tout cas, c'est-à-dire que tous les organismes vivants sur Terre, tous, absolument tous, qu'il s'agisse des plantes, des bactéries, des mammifères, etc., résultent d'une même cellule universelle initiale, dont on sait qu'elle s'est produite évidemment il y a plusieurs milliards d'années. La différenciation entre les différentes branches de cet arbre remontant à au moins 1,5 milliard d'années, l'arbre de l'évolution est un arbre qu'il faut arriver à déchiffrer. Il n'y a pas d'unanimité à l'heure actuelle sur les moments où telle branche s'est séparée de telle autre, mais c'est une chose extrêmement étudiée à l'heure actuelle et je crois quand même un morceau fascinant de l'histoire du vivant sur Terre.
Tout à fait, mais alors évidemment on voit tout de suite les débats que ça va provoquer parce que certains vont remettre en question le moment de la création. Enfin, on ne sait plus très bien à quel moment se situe la création et donc on imagine que certains évolutionnistes ou darwiniens ou créationnistes, tout ça, ça va se bagarrer encore beaucoup parce que...
Les scientifiques ne se bagarrent pas, c'est-à-dire que les raisons qui font penser que le mécanisme qu'avait décrit Darwin est réellement valable à l'échelle moléculaire n'ont cessé de se renforcer, c'est-à-dire quand on compare les différentes séquences, on s'aperçoit de telles proximité qu'il est impensable que ceci soit l'effet du hasard. Entre le génome du chimpanzé et le génome de l'homme, la proximité, alors je vais dire une bêtise, j'ai oublié le chiffre exact, elle est très supérieure à 90%,
98,
c'est peut-être 98
oui,
ou 99%
dit, oui.
Entre l'homme et le chimpanzé. Si on regarde l'homme et la drosophile, cette mouche du vinaigre si différente de nous, on voit des similitudes, des séquences extrêmement longues.
C'est incontestable.
C'est un peu comme si vous ouvrez un livre d'une langue tout à fait inconnue, et puis au milieu, vous y retrouvez quelques milliers de vers de Victor Hugo. Vous ne pouvez pas penser que c'est l'effet du hasard et que dans cette langue inconnue, quelqu'un a sorti par l'effet du hasard des milliers de vers de Victor Hugo. Il y a forcément une connexion. Donc nous vivons dans ce monde, et tous les biologistes, je crois, professionnels, tous les spécialistes de l'évolution sont convaincus que dans des mécanismes qu'ils ont explicités à l'échelle moléculaire aujourd'hui, que Darwin n'avait pas, il existe bien une évolution et les mécanismes de l'évolution, des mutations qui donnent lieu à cette évolution, sont maintenant pour la plupart bien élucidés et bien compris. Évidemment, ceci choque des gens qui n'arrivent pas à croire qu'il est possible que l'évolution ait donné lieu à ces merveilles. Comment, disent-ils, l'évolution a-t-il pu produire un œil ou des choses comme ça. Alors, de là à dire on ne comprend pas, donc créationnisme,
oui,
il n'y a qu'un pas. C'est un pas que les scientifiques ne franchissent pas parce que... Comment vous dire? L'idée que là où on ne comprend pas, on va dire, eh bien, on ne peut pas comprendre, est une idée complètement contraire
à la démarche scientifique.
Donc, nous refusons cette idée du créationnisme qui n'a aucune base. Nous refusons sa version moderne, beaucoup plus hypocrite, qui sévit actuellement aux États-Unis et qui préoccupe énormément nos collègues scientifiques américains, qui s'appelle l'intelligent design, le dessin intelligent, dessin EIN. Un nombre important d'États américains maintenant imposent aux professeurs de sciences de consacrer autant de temps à la théorie de l'évolution
darwinienne ou néo-darwinienne
qu'à l'intelligent design, et ceci heurte les scientifiques américains. L'Académie des sciences des États-Unis ne cesse de tonner contre ces États, mais les États ne font
oui,
ce qu'ils veulent.
Il y a d'autres, évidemment, d'autres enjeux
C'est un problème politique de relation entre la science et la société, dans lequel, visiblement, les scientifiques n'arrivent pas à se faire comprendre pour l'instant, ou en tout cas pas suffisamment.
Voilà une autre question. Alors, avec Édouard Brézin, nous allons encore évoquer trois questions qui avaient d'ailleurs été évoquées par lui-même dans son discours d'ouverture de la séance de rentrée de l'Académie des sciences. Mais auparavant, on va marquer une courte pause.
Canal Académie rend hommage aux grandes figures historiques de l'Institut de France. Jean-François Revel, de l'Académie française, décédé en 2006. Jacques Bainville, également journaliste et également immortel de la française, mais d'une autre génération. Les frères Reynac, grandes figures de la Troisième République, dont l'un d'entre eux, Salomon, était membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. François Arago, scientifique du XIXe siècle, membre de l'Académie des sciences dès l'âge de 23 ans. Charles Trenet et Delacroix, tous deux membres de l'Académie des beaux-arts. Roger Arnaldez, philosophe de la pensée orientale médiévale, ainsi que beaucoup d'autres figures de l'histoire des académies qui, je vous le rappelle, remontent jusqu'au XVIIe siècle.
Alors, Monsieur Édouard Brézin, quelle est la structure de l'eau? Alors là, vous posez des questions qu'on a l'impression de connaître. Quelle est la structure de l'eau? On ne sait pas quelle est la structure de l'eau. C'est vraiment une question pour la science actuelle?
Oui, c'est une question. C'est ce qui me frappait, effectivement, c'est que dans des choses aussi simples et aussi anciennes, il reste des choses incomprises, même pour ce liquide le plus familier qui soit, oui. Qui est celui de l'eau. Déjà, c'est un liquide. Alors, sa structure, bien sûr, tout le monde sait qu'une molécule d'eau est composée, H2O,
oui, là,
est composée d'un oxygène et deux hydrogènes, ça tout le monde le sait et il n'y a aucun doute à ce sujet. Ce qui est bizarre dans cette substance, c'est déjà que la glace flotte sur le liquide. Si vous prenez une autre substance liquide et que vous la solidifiez à basse température, en général le solide est plus dense que le liquide et le solide tombe. Là c'est l'inverse. Déjà, pourquoi est-ce que la glace flotte sur l'eau liquide était déjà un problème compliqué. C'est lié au fait que les molécules ne sont pas isolées les uns des autres, mais développent entre elles des ponts hydrogènes, comme on dit, qui est, alors les ponts hydrogènes sont connus depuis longtemps, mais pourquoi ces ponts hydrogènes permettent de faire que le liquide est plus dense que le solide a posé problème. Celui-là est compris maintenant. Donc celui-là est compris.
Donc il y a des progrès.
Donc il y a eu quelques progrès, mais assez récents tout de même. Vous voyez, c'est pas une question évidente. Deuxième point, nous sommes faits d'eau à, je ne sais plus, 70 ou 80%.
Une grande partie de nous.
Et donc nos substances flottent dans l'eau. L'eau est donc un solvant dans lequel le vivant s'est développé. Donc question, qu'est-ce qui a permis le développement du vivant? C'est pas un très bon solvant. Qu'est-ce qui sont les propriétés physico-chimiques qui ont permis le développement du vivant? C'est une première question qui est étudiée à l'heure actuelle et qui est assez récente et pour laquelle il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent. Et une autre question que se posent les gens qui regardent l'univers, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres solvants dans lesquels d'autres formes de vie que la nôtre se soient développées dans l'univers? Est-ce que ce serait concevable ou est-ce que c'est inconcevable que des formes de vie se soient développées? Est-ce que je sais, dans du méthane, pour prendre un autre exemple? Voilà une question qui est posé à des chimistes. Est-ce que c'était concevable? Ça met en jeu la grande question qui est de savoir quelle est l'origine du vivant. Comment est-ce que une molécule initiale, je reviens à Lucas pour un instant, a pu se reproduire? Ça, c'est une question non résolue. Comment est-ce qu'on a pu arriver quelque part à un objet capable de se reproduire lui-même à l'identique? Cette grande question-là, elle est une question sur l'origine de la vie, est une question non résolue et elle rejoint là l'eau.
Mais alors il y en a encore une question non résolue, et ça c'est la question suivante, c'est nous avons deux bras, nous avons deux jambes, pourquoi à un moment donné se sont-ils arrêtés de pousser? Ils auraient pu pousser indéfiniment. Comment la cellule sait-elle qu'il faut s'arrêter à un moment donné?
Oui, alors là, c'est pas du tout mon domaine, mais les biologistes du développement, par exemple, Madame Ledouarin, qui est secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, qui est une des grandes biologistes du développement, me confirme que cette question n'est pas comprise. Nous avons une période de développement de nos membres, de nos organes, et puis, à un moment, ce développement s'arrête. Miraculeusement, il s'arrête simultanément pour nos deux jambes, par exemple. Nous n'avons pas une qui croit encore pendant deux ans pendant que l'autre reste stationnaire. Non, ça s'arrête en même temps. De la même façon, il y a un moment où notre foie décide que ça suffit, il n'y a plus besoin de grossir. Qu'est-ce qui fait que ce processus de développement, à un moment, est déprogrammé? Eh bien, la vision explicite moléculaire de cette déprogrammation d'une machine qui pourtant croissait et se reproduisait, eh bien, ceci n'est pas compris. Il est clair que de la réponse à cette question peut dépendre des choses aussi compliquées que le cancer, car comme vous le savez, le cancer, c'est précisément le fait que cette déprogrammation ne se produit pas. C'est-à-dire que nous sommes devant ce paradoxe qui est que le rêve de l'éternité, eh bien, en réalité, c'est le cancer. Les molécules qui ne meurent pas, qui se reproduisent toujours semblables à elles-mêmes, provoquent le cancer. Voilà, si nous comprenions pourquoi elles s'arrêtent, peut-être pourrions-nous aussi comprendre pourquoi, dans certaines pathologies, eh bien, les molécules ne comprennent pas qu'il faut s'arrêter un moment de croître.
Absolument. Donc, c'est évidemment, on voit bien tout l'enjeu de cette question que vous avez posée. Et alors, je vais maintenant terminer par une autre discipline que vous avez abordée aussi dans votre discours. Ce sont les mathématiques. Alors là, je vais vous lire parce que je ne voudrais pas poser la question de travers. Poincaré avait-il formulé le bon test permettant de caractériser les objets qui ont la forme de sphères déformées? Si nous vivions dans un espace à quatre dimensions au lieu des trois qui nous suffisent, apparemment. Alors, vous dites que cette question a été mise au concours et que plusieurs personnes, je suppose, ont essayé de la résoudre. C'est ce qu'on appelle le problème de Poincaré. Ça n'est pas résolu. C'est un problème mathématique non résolu.
Oui. Alors, une fondation américaine, qui s'appelle la Fondation Clay, en 2002, a annoncé qu'elle mettait au concours 7 problèmes de mathématiques et que toute personne qui arriverait à résoudre l'un des 7 recevrait $1 million. Ce problème de Poincaré est le suivant. Si je prends une sphère en pâte à modeler et que je la déforme un peu, elle va quand même garder la propriété suivante, c'est que si je prends un petit caoutchouc, je peux le faire coulisser le long de cette sphère déformée et finalement, il va pouvoir sortir de la sphère sans faire de nœud. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut le faire glisser le long d'une sphère ou une autre façon de dire, on ne peut pas attraper un ballon au lasso, car le nœud du lasso va glisser et quitter. Et donc, en quelque sorte, Poincaré s'était posé une question très abstraite qui était, si nous vivions dans un espace à 4 dimensions au lieu de 3 qui nous sont familières, est-ce que les sphères seraient caractérisées par cette même propriété ? Eh bien, bizarrement, cette question qui a l'air très simple, sauf que 4 dimensions, nous n'avons plus d'intuition, c'est une question qui intéressait les mathématiciens, cette question n'est toujours pas résolue. Enfin, peut-être l'est-elle. Et je racontais cette histoire parce qu'elle me paraît assez symbolique tout de même des motivations des scientifiques, même si elle n'est pas tout à fait banale. Il est vraisemblable que ce problème qu'avait posé Poincaré, qui a été mis au concours en 2002, a sans doute été résolu depuis par un jeune mathématicien russe qui travaille à Saint-Pétersbourg, qui s'appelle Monsieur Perelman. Mais Monsieur Perelman a refusé jusque-là de soumettre sa preuve à publication dans une revue scientifique. Il l'a envoyé à des collègues et il vient d'avoir un colloque cet été de gens qui ont vérifié sa preuve, qui est monumentale, qui occupe des centaines de pages et qui apparemment disent que réellement la preuve n'a pas l'air d'avoir de trous, de faute.
Mais la raison pour laquelle
il l'a pas soumis,
soumise.
Et apparemment, c'est un être très singulier, mais néanmoins respectable, au contraire, ou plus que respectable. Il est très attaché à sa tranquillité d'esprit. Il veut pouvoir travailler sur les mathématiques tranquillement. Il n'a pas envie, il ne veut pas de ce prix $1 million. Il ne veut pas de la publicité qui va avec.
Il veut faire des mathématiques.
Voilà. Il veut faire des mathématiques. Et si donc, en publiant sa preuve, on venait l'embêter avec des caméras, de l'argent dont il n'a que faire, il ne veut faire que des mathématiques, eh bien, jusque-là, il refuse de se faire connaître, à tel point que personne ne sait s'il a dépassé la limite fatidique de 40 ans pour les mathématiciens, s'il est juste en dessus ou juste en dessous, car il faut avoir moins de 40 ans en mathématiques pour être éligible pour le grand prix des mathématiques qui s'appelle la médaille Fields, pour lequel la règle est d'avoir moins de 40 ans, et nul ne sait s'il est au-dessus ou en dessous.
Voilà. Et voilà encore un mystère de plus dans les questions que se pose la science aujourd'hui. Juste pour conclure, monsieur Édouard Brézin, vous dites que la communauté scientifique, l'une de ses missions, c'est d'engager le dialogue avec nos concitoyens, de les écouter, de comprendre leurs aspirations, leurs appréhensions par rapport aux questions scientifiques. Est-ce que vous pensez que c'est l'une des missions de l'Académie des sciences, particulièrement ce dialogue avec, j'allais dire, le tout un chacun qui n'y comprend pas forcément grand-chose à toutes ces questions, forcément?
Oui, vous posez là vraiment une question très centrale et je crois qu'effectivement, l'Académie des sciences, dans ses missions, dans ses statuts, a le devoir de faire connaître à nos concitoyens les grandes questions ou d'attirer son attention sur les grandes questions de notre époque. Pour prendre un exemple, les académies des sciences des grands pays du G8 se sont réunies avant cet été, avant la réunion des chefs d'État du G8, pour attirer l'attention des gouvernements qui allaient se réunir sur l'importance des problèmes du changement climatique. Il y a eu une déclaration commune des 8 académies des sciences, auxquelles d'ailleurs s'étaient joints pour cette déclaration particulière la Chine, le Brésil et l'Inde, car nous sommes tous concernés. Donc voilà un exemple dans lequel les académies souhaitent alerter nos gouvernements et nos concitoyens sur un problème absolument central. L'Académie des sciences n'est pas une administration. Nous n'avons rien d'officiel. Nous sommes au service de la nation dans son ensemble, et dans ses services, il appartient d'attirer leur attention, d'écouter leurs inquiétudes et d'attirer leur attention sur un certain nombre de choses qui nous paraissent importantes. Il y a des cas même où nous sommes en désaccord avec des options prises par les gouvernements.
Le gouvernement vous demande-t-il votre point de vue de temps à autre ? Vous souhaiteriez qu'il...
Il arrive que le gouvernement nous demande notre point de vue, il arrive qu'il ne veuille l'écouter, il arrive qu'il ne veuille pas l'écouter. Par exemple, l'Académie des sciences n'était pas en faveur des vols spatiaux habités, pour prendre un exemple. Nous n'avons pas été écoutés. La France a soutenu la Station Spatiale Internationale, ce qui nous paraissait non justifié du point de vue de la science, en tout cas. Dans d'autres cas, l'Académie peut être suivie. Nous avons émis des avis sur, je vais prendre un exemple très éloigné, sur la surexploitation des océans et les conséquences à en déduire sur les pêches, l'avis de l'Académie sur ce plan semble avoir été suivi dans les recommandations ou dans les arrêtés qu'a pris le gouvernement vis-à-vis des pêches il y a maintenant un an. Donc nous sommes soit répondant à des questions du gouvernement, soit en autosaisine, complètement convaincu que nous devons effectivement, en dialogue avec nos concitoyens, regarder les questions importantes qui se posent à nos sociétés. Je crois que nous vivons quand même dans des sociétés où la science est de plus en plus présente, le sera de plus en plus, pose à chaque fois, comme vous le disiez tout à l'heure, des questions duales, c'est-à-dire qu'on peut attendre des progrès de la science. La connaissance permet en général de mieux savoir faire. Elle permet aussi d'avoir des moyens, ça a toujours été le cas, des moyens de mal agir aussi plus puissants. Au fur et à mesure que la biologie progresse, peut-être que les dangers du bioterrorisme progressent eux aussi. Est-ce qu'il faut arrêter la biologie et la santé au nom de fous qui pourraient faire du bioterrorisme ? Voilà une question qui sans arrêt se pose et qui ne dépend pas que des scientifiques.
Oui, qui illustre toute l'ambiguïté du progrès scientifique, mais on ne va pas l'arrêter, bien au contraire, la science est en marche, c'est ce que vous avez démontré, monsieur Édouard Brézin, dans votre magnifique discours de séance solennelle de l'Académie des sciences du 15 novembre 2005. Je rappelle que vous êtes le président de l'Académie des sciences, que l'on peut trouver sur le site de l'Académie des sciences toutes les informations scientifiques sur les questions que vous avez évoquées, que l'on peut aussi télécharger l'émission que vous venez d'écouter Éclairage sur la médiathèque de Canal Académie, et sans doute peut-on aussi retrouver l'intégralité de ce discours sur la médiathèque de Canal Académie puisque cette séance a été retransmise. Merci monsieur Brézin, et j'espère que nous aurons l'occasion d'aborder d'autres questions, peut-être plus physiques puisque vous êtes physicien et que nous avons là aujourd'hui évoqué beaucoup de disciplines scientifiques. Merci
infiniment. Très volontiers. Merci de votre invitation et de votre écoute.